Le débat africain. Alain Foucault.
La francophonie économique. À quoi correspond ce concept qui a réuni cette semaine à Paris plusieurs centaines de patrons d'entreprises, de nombreux dirigeants, des patrons venus de différents horizons, de dizaines de pays ayant en partage la langue française? Est-ce une nouvelle plateforme pour remettre en scène les partenariats économiques, les courants économiques en berne entre la France et les pays d'expression française? Au regard de la qualité, du niveau de dirigeants qui ont effectué le déplacement de Paris malgré les conditions sanitaires particulièrement contraignantes, on est en droit de se demander en quoi elle peut changer la donne. Bonjour à tous, bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à l'hippodrome de Longchamp qui traditionnellement accueille plutôt les courses de chevaux, mais qui exceptionnellement aujourd'hui reçoit des patrons dans les starting blocks pour un nouveau départ. D'abord Lionel Zinsou, ancien premier ministre du Bénin, ancien banquier chez Rothschild, et qui avec quelques copains a créé la banque d'investissement Southbridge Investment. Bonjour Lionel Zinsou.
Alain, bonjour.
Notre second invité est Mariama Satina Diallo-Sy, ancienne ministre de Guinée, PDG du groupe mondial Tour, qui est à la fois dans le tourisme, la restauration, le voyage, l'événementiel et le traiteur. Bonjour Mariama Diallo-Sy.
Bonjour Monsieur Foucault.
Notre troisième invité est Momar Guerre, ancien président de la branche marketing et services de Total, et aujourd'hui président du comité Afrique du MEDEF international. Bonjour Momar Guerre.
Bonjour Alain Foucault.
Quatrième invité de ce plateau, Albert Moulimbi Yuma, le président de la puissante Fédération des entreprises du Congo, la FEC, et président du conseil d'administration de la GECAMINE. Bonjour Albert Yuma.
Bonjour Alain Foucault.
Alors je vois beaucoup de patrons ici. Après la Covid, ça donne un peu le tournis parce qu'on n'était plus habitué à voir autant de monde. Mais ce qui frappe, c'est qu'il y a un nombre extraordinaire de patrons venus ici. On ne parle que français, ce qui change généralement parce que lorsqu'il y a des rencontres, on parle essentiellement en anglais. Là, tout est en français. Ça rassure pour les gens comme moi qui ne parlent que le français et qui ont du mal un peu avec l'anglais. Alors, quand on dit francophonie économique, les gens ont envie de dire encore une institution qui naît. En quoi la francophonie économique est-elle différente? Qu'est-ce qui fait que les gens se soient déplacés ainsi? Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, patron, malgré la situation sanitaire, de venir ici? J'ai envie de commencer par Madame Diallo-Sy. Qu'est-ce qui vous amène là? Qu'est-ce qui vous fait croire que ça peut changer quelque chose? Et quoi?
Je pense que cette rencontre est venue à point nommé. Il y a très longtemps que nous allons participer à des rencontres internationales, comme vous dites, où l'on parle anglais, ou c'est dans les pays anglophones ou asiatiques. Je pense que la France avait fait un pas en arrière. C'est vraiment l'impression que j'avais. Et que cette invitation à ce que les patronats africains viennent se rencontrer ici, c'est venu au bon moment. On avait besoin de nous retrouver après presque 2 ans enfermés, confinés dans nos soucis. Et nous pensons qu'ensemble, c'est sûr qu'on peut construire quelque chose de positif pour nos entreprises.
Alors vous avez entendu des jeunes qui disent encore des patrons africains convoqués à Paris par Paris. Vous imaginez bien que le fait qu'on soit ici à Paris avec des patrons africains qui viennent, des patrons francophones qui viennent, on se dit, est-ce que c'est le prolongement de la France-Afrique, Albert Yuma?
D'abord, j'espère que non. Et je n'y crois pas. Si c'était le prolongement, je ne serais pas venu. Moi, j'estime qu'il est temps d'oublier la colonisation, d'oublier les dictats venus de l'extérieur et que l'Afrique se prenne en charge, mais vienne en aide à la France.
Ah, c'est l'Afrique qui va venir en aide à la France.
Absolument, je crois qu'il n'y a pas d'économie française qui peut espérer prospérer sans le seul lien qui lui reste d'investissement possible que ce n'est l'Afrique.
Oui, mais là, dans le même temps, vous dites ça et puis c'est vous qui êtes à Paris. Si c'était la France qui avait besoin de l'Afrique, peut-être que ça se serait passé dans un pays francophone au sud du Sahara.
Bon, j'ai cru comprendre hier que c'était à l'initiative du président Macky Sall qui avait un peu tensé le MEDEF de ne rien faire. Et moi qui te parle ici, j'étais en 2012 à Québec avec le président Abdou Diouf qui était à l'époque secrétaire général de l'OIF. C'est à Québec que nous avions lancé l'idée de la francophonie économique. Et si je suis venu ici, c'est parce que j'avais désespéré de la France et du MEDEF. Et j'espère que je suis venu à raison.
Oui, mais qu'est-ce qui donne l'impression que ça va changer là maintenant? Parce qu'on a vu tellement de rencontres où on fait des beaux discours, on fait des beaux repas, et puis après, tout s'en va. Lionel Zinsou, vous qui êtes là, je vous ai entendu hier, et vous êtes sûr, cet espace, depuis qu'a commencé cette rencontre, En quoi ce serait différent de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant?
Mais Alain, il ne faut quand même pas bouder son plaisir. Parce que moi, j'étais avec Albert à Québec. Le président Diouf m'avait téléphoné, m'a dit « Mon fils, tu vas répondre oui à ma question. » Bien sûr, monsieur le président. « Bon, alors, est-ce que tu peux venir après-demain à Québec? Il n'y a aucun patron français qui veut venir. » Bon, là, si vous voulez, il vient des gens du Canada, de la Suisse, de la Belgique, parce qu'il ne faut pas que français, hein, et il vient 30 patrons africains. Donc ça, c'est déjà quelque chose de nouveau. Deuxièmement, ce n'est pas une initiative de gouvernement, d'institution, c'est des entreprises. C'est le MEDEF Afrique de MOMA, c'est les entreprises qui disent, bon, on est le secteur privé. En plus, le secteur privé, pendant la Covid, a fait la preuve qu'il était extrêmement présent dans les mesures sociales, pour la résilience africaine. Donc il y a une légitimité du secteur privé à prendre des initiatives de développement qui est beaucoup plus grande qu'avant. Donc c'est venu des entreprises, de la base, au lieu de venir du haut. Ça, c'est un changement. Et puis, il ne faut pas bouder non plus. Quand il y a des moments historiques, il faut se rendre compte qu'il y a des moments historiques. Lundi dernier, l'Afrique a reçu 33 milliards de dollars. D'un coup, non pas de dette, mais de ses propres droits, hein, des droits de tirage spéciaux, qui donne un peu de moyens à nos gouvernements pour aider les familles ou pour aider les entreprises. Chose que seuls les pays riches pouvaient se permettre. Bon. Ça, c'est une invention de l'Union africaine. Une négociation avec l'Union européenne pour augmenter de 33 milliards à 100 milliards, c'était lundi. Si vous voulez. Aujourd'hui, il faut quand même prendre la mesure des changements de temps en temps.
Oui, mais vous savez très bien que... qu'on entend beaucoup de jeunes qui se disent tout ça... Ça vient toujours de Paris. Est-ce que c'est l'initiative des Africains? Là, on dit c'est parti de Macky Sall cette fois-ci. Ça avait commencé avec Abou Diouf. Mais quand on entend MEDEF, on se dit c'est encore une histoire française, Moumar Guer. Est-ce que c'est vraiment l'affaire des chefs d'entreprise africains qui se prennent en charge et qui disent on y va?
D'abord, moi, je voudrais recadrer un petit peu les choses. Cette rencontre, c'est pas une convocation des chefs d'entreprise africains à venir en France dialoguer avec les chefs d'entreprise français. Ce dialogue entre les entreprises françaises et les entreprises africaines, il est permanent. Le MEDEF régulièrement se rend dans les pays d'Afrique et rencontre les patronats des pays d'Afrique. Comme les patronats des pays d'Afrique, le président Huma le sait très bien, viennent à Paris rencontrer le MEDEF international et avoir des discussions avec les entreprises françaises. Je crois que ce qui est différent, c'est le côté un petit peu institutionnel. C'est de se dire qu'effectivement, moi j'étais là l'année dernière, effectivement, c'est une interpellation du président Macky Sall, presque une injonction du président Macky Sall à faire quelque chose. Parce que derrière cette langue que nous avons en commun, qui n'appartient pas à la France, le français n'appartient pas.
Oui, on entendait un certain nombre de personnes dire que c'est une langue africaine aujourd'hui, le plus grand nombre de locuteurs se trouve en Afrique.
Je me considère avoir autant de droits sur cette langue que n'importe quel Français né en France. Donc ce n'est pas une langue qui appartient à la France. Nous avons en commun cette langue. Et derrière la langue, il y a forcément une culture. Donc nous sommes des centaines de millions de personnes, dont une bonne part d'Africains, qui avons à travers la langue, une part de notre culture qui est commune. Eh bien, nous disons, essayons, à travers cette communauté de culture, de bâtir quelque chose, de bâtir un vivre ensemble, de bâtir une manière de faire des affaires ensemble.
Pourquoi il y a une manière différente de faire les affaires, qu'on soit francophone ou anglophone, j'ai envie de dire. Oui. Est-ce qu'il n'existe pas une méthode mondiale?
Non.
Là, je vois Lionel.
Non.
Il y a des valeurs précises, il y a des règles de droit précises qui ne sont pas les mêmes, dans les mêmes traditions. Moi, je regrette, par exemple, quand on parle avec nos interlocuteurs chinois, que ça se passe toujours à travers des avocats américains, en droit dit de common law, en droit des affaires
anglais,
des États-Unis et de la Grande-Bretagne. C'est pas pareil de le faire en droit de l'OADA, qui est un droit commun à 18 pays africains, mais qui est dans la tradition du droit romain, du droit français. Franchement, non, on ne fait pas des affaires de la même façon. Et c'est pas français ou belge ou autre. On est, exactement comme a dit Momar, les propriétaires d'un patrimoine culturel, et on essaye aussi de nourrir une tradition un peu différente notamment en termes de respect de certaines règles de droit.
Alors là, on a envie de dire, ok, une fois qu'on a dit ça, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut se mettre ensemble dans cette communauté qui parle la même langue. Mais qu'est-ce que ça apporte très concrètement? C'est quoi l'étape suivante, Albert Yuma?
Mais j'oserais dire que l'étape suivante, c'est tout simplement, enfin qu'on se rende compte, ils viennent de le dire tous les deux, que nous avons un avantage comparatif de parler la même langue pour qu'on se rende compte que si on veut être indépendant économiquement de ceux qui arrivent aujourd'hui, la colonisation chinoise ou asiatique en général, utilisons la langue pour amener les fondamentaux d'une culture commune qui n'est plus basée sur l'historique colonial, mais sur des capacités d'agir ensemble pour développer nos populations et empêcher que cette langue qui nous appartienne ne disparaisse. Lionel a dit si bien, dans le secteur minier, je suis confronté tous les jours à des litiges qui sont réglés par la common law. C'est aberrant. Mais alors qu'aujourd'hui, je m'excuse, je l'ai dit hier quelque part, la France a moins d'audace, a peur de revenir dans un pays comme la RDC, on laisse une place à un monde anglo-saxon que les Chinois ont copié, alors que il est tellement plus facile de se mettre d'accord sur des objectifs communs parce qu'on a la facilité de la langue. La prochaine étape, c'est d'aller sur des projets concrets. J'étais hier dans un panel, les grands projets comme motivation, source de croissance. Ces projets existent. Dans un pays comme la RDC, qui a trop de défis, trop de besoins, il y a aussi autant d'opportunités. Les prochaines étapes, c'est identifier les grands défis dans les pays francophones et d'y répondre par des projets économiques communs.
Là, j'ai envie de poser la même question à Mme Diallo aussi. Qu'attendre de tout ceci? C'est bien beau, tout le monde est là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut se mettre ensemble. Mais se mettre ensemble autour de quoi? Pour faire quoi?
Mais autour de l'essentiel aujourd'hui, ce qui nous regroupe, nous sommes tous des hommes et des femmes d'affaires. Et évidemment, la langue est un élément extrêmement important que nous avons en commun. Et comme ils l'ont dit, je pense qu'il n'y a aucun complexe aujourd'hui pour nous de dire que la langue française est la nôtre. Combien de fois est-il difficile de travailler avec les Chinois? Je n'ai rien contre eux, mais je vous assure que je préfère encore une colonisation, si l'on peut parler ainsi, une ingérence.
On ne veut plus de colonisation, hein, si les jeunes vous entendent. Parce que, non, là, vous allez vous faire...
Justement, les jeunes, il faut qu'ils avancent un peu plus. Pourquoi? Dès qu'on parle France... C'est, aujourd'hui, on dirait que c'est eux qui ont le complexe.
C'est comme ça que vous le ressentez ?
Oui, parce que je pense que nous avons dépassé cette étape. Je pense qu'il n'y a plus de complexe entre la France et l'Afrique. Je pense que les peuples africains ont mûri, l'intelligentsia africaine a mûri et les jeunes sont décomplexés. Donc où est le problème aujourd'hui de venir en France pour faire tenir cette rencontre?
C'est d'ailleurs ce que disait le Premier ministre Patrick Hachi de Côte d'Ivoire hier.
Absolument.
À l'ouverture cette rencontre.
Voilà, dans 3 mois on est à Djerba et je pense que le Sénégal ou le Cameroun va recevoir la prochaine rencontre. La France, ça n'a été qu'une ouverture et ça va être tournant dans nos différents pays.
Mais moi, j'ai envie de dire, ok, on a réuni les francophones, ils vont devenir forts. Il y a le Commonwealth de l'autre côté qui a aussi son Commonwealth économique. Est-ce que c'est le pendant et est-ce que ça va permettre de booster cette région qui, on peut dire ça comme on veut, est quand même un peu en retard par rapport aux autres régions au Montmartre?
D'abord, je ne pense pas que cette région, alors je ne sais pas ce que vous appelez...
Économiquement, quand même, quand on regarde les plus gros...
Si vous parlez de l'Afrique francophone...
L'Afrique francophone, j'entends.
L'Afrique francophone n'est pas en retard par rapport à l'Afrique anglophone. Alors maintenant, vous opposez Est contre Ouest, mais moi, je me méfie sur l'Afrique. D'abord parce que l'Afrique du Nord fait partie quand même jusqu'à la nouvelle ordre de l'Afrique.
C'est vrai.
Et donc, si vous dites francophone, anglophone, je ne suis pas sûr que votre raisonnement soit juste. Mais cela dit, regardez ce qui s'est passé quand il a fallu faire l'élargissement de l'Union européenne. Passer au 27, au 28. Quel a été le principal sujet dont les fonctionnaires de Bruxelles, quand vous leur parlez, quel était leur casse-tête? Le nombre d'interprètes qu'il fallait, parce qu'il fallait interpréter dans chaque langue et qu'il fallait éviter de passer par une autre langue pour interpréter dans la langue d'arrivée. Eh bien, c'est dire l'importance, même quand vous êtes à Bruxelles, de la langue. Et c'est pas seulement l'importance de la langue dans la discussion politique qu'il y a, parce que tous ces chefs d'État parlent anglais, mais dans les documents économiques, dont on doit parler. Et moi, je dis demain, la zone de libre-échange économique africaine va se faire. Ça prendra le temps que ça prendra.
Ça prend beaucoup de temps
oui,
quand même.
Oui, mais attendez. Ça prend
beaucoup de réticence.
Oui, ça prend rien du tout. Quand vous comparez ça à l'aune de ce qui s'est passé sur l'Europe, entre 50...
Oui, on ne va pas passer le même temps que l'Europe pour faire cette union.
On va essayer de faire...
On peut gagner sur leur expérience.
On va essayer de faire moitié moins. Même moitié moins...
Ça fait beaucoup quand même.
Ça fait beaucoup. Alors, on va essayer de faire un quart. Bon, très bien. Mais la question qui peut se poser dans la ZLECAF, demain, quelle va être la langue dominante dans la ZLECAF? Quelle va être la langue dans laquelle les documents vont être élaborés? Ils vont être élaborés en anglais parce qu'il y a l'Afrique du Sud et le Nigeria. Ils vont être élaborés dans les deux langues. Tout ce qui est documents pour les documents douaniers, documents économiques, il faut que ce soit rédigé dans les deux langues. Il faut que vous soyez vigilants pour que ce ne soit pas la version anglaise qui soit l'original et l'autre une traduction. Donc la langue est importante dans les relations économiques. Et se dire qu'on va avoir des entreprises qui ont le même intérêt à ce que ces échanges se fassent dans la langue qu'ils comprennent le mieux, je pense que c'est un plus.
Oui, la langue est certainement un plus. Mais quand on regarde l'ensemble de ces États-là, moi, j'ai plutôt un focus sur les États africains francophones. Vous me le pardonnerez, mais vu le nombre de personnes qui nous écoutent, je pense qu'ils ont le même type de focus. Est-ce que on peut imaginer des projets communs lorsque l'on regarde le mal que l'on a à avoir des échanges même entre ces États francophones-là, déjà sur le continent?
Non. On avait, pour des raisons historiques, des spécialisations de nos économies telles que ça ne prenait sens que par rapport aux métropoles coloniales.
Absolument.
Et donc, on n'avait pas à échanger de l'huile de palme du Bénin avec de l'uranium du Niger et du cacao de la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. On avait d'autres spécialisations. Et ce n'est pas la peine de tomber des nues en disant ces pays n'échangent pas. Bon, d'autre part, ces pays...
Mais est-ce que ce n'est pas ça l'urgence aussi?
Oui, mais d'abord, aujourd'hui, ces pays échangent beaucoup plus. Puis ils échangent du maïs, du manioc. Les frontières sont passées tous les jours pour des biens de consommation courante, pour des produits agricoles, pour des produits textiles, etc. Il y a beaucoup plus d'échanges, souvent assez informels, qui échappent parfois aussi aux douanes et qui sont le début d'une vraie communauté économique. Mais c'est vrai qu'on a encore pas mal de barrières douanières et non douanières.
Si je mentionne cela, monsieur le Premier ministre, c'est parce que ceux qui nous ont écoutés, ceux qui savent qu'on est là, se disent, mais est-ce qu'ils ne devraient pas d'abord construire entre eux avant de chercher à aller le plus large possible?
Lorsqu'ils
ont autant de mal à se réunir.
Non, Alain. Oui. Aujourd'hui, on échange de l'électricité. C'est déterminant.
Ça, c'est en Afrique de l'Ouest. Hein.
Oui, parlons.
Ça reste une zone très, très réduite.
Non, Alain, je suis désolé. Non, en Afrique australe, entre la Zambie, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, il y a des échanges d'électricité.
Oui, mais ça, on est déjà chez les non-francophones. Non, moi, je parlais essentiellement des francophones sur ce coup-là.
Voilà, donnez la parole à la RDC qui a la possibilité.
Exactement. Je pense que sur l'exemple de l'énergie électrique, il faut que le monde des affaires dépasse les petites divergences des États. J'étais il y a quelques semaines dans un pays africain anglophone. Nous sommes en train de regarder comment le projet Inga ne doit pas être un projet qui soit un projet occidental ou chinois, mais un projet africain.
Et c'est ça l'urgence, non ?
C'est ça l'urgence. Mmh. Et quand on va bâtir, je dirais, cette francophonie réellement économique sur base des intérêts économiques de développement, on a suffisamment de projets structurants, à commencer par Inga, c'est 40 000 mégawatts. Ça veut dire que tous les pays francophones environnants peuvent être alimentés.
Voilà un projet.
Jusqu'aux pays non francophones, puisque le Nigeria, l'Égypte seraient même intéressés. Donc je crois qu'on doit faire des projets structurants, mais je suis toujours très attentif.
Moi, je pense que les gens sont attentifs sur des projets très très clairs, parce qu'en réalité, ce que demande la jeunesse, c'est des projets. On en parle dans la seconde partie du débat africain, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Nous parlerons de projets, puisque nous sommes aujourd'hui réunis autour de ce plateau avec des patrons de différentes régions du continent francophone. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On en parle juste après le journal.
Le débat africain, Alain Foucault.
Qu'est-ce que c'est la francophonie économique? Que peut-on en attendre? Que peut-on attendre de l'Afrique dans un contexte de mondialisation fortement perturbé par la crise de
la COVID-19. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain, délocalisé exceptionnellement à l'hippodrome de Longchamp, où se tenait cette semaine la première rencontre des entrepreneurs francophones. Avec sur ce plateau plusieurs leaders, plusieurs patrons du secteur privé opérant en Afrique. D'abord, Lionel Zinsou, ancien premier ministre du Bénin, ancien banquier chez Rothschild, qui avec quelques copains a créé la banque d'investissement Southbridge Investment. Notre second invité est Mariama Satina Diallo-Sy, ancienne ministre de Guinée, PDG du groupe mondial Tour, qui est à la fois dans le tourisme, la restauration, le voyage, l'événementiel et le traiteur. Notre troisième invité est Momar Guerre, ancien président de la branche marketing et services de Total, et aujourd'hui président du comité Afrique du MEDEF international. Quatrième invité de ce plateau, Albert Odumbi Yuma, le président de la puissante Fédération des entreprises du Congo, la FEC, et président du conseil d'administration de la GECAMINE, la Générale des Mines. Voilà pour notre plateau. Alors, dans la première partie, j'insiste toujours sur le fait que les gens se disent qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble avec les francophones. Certains ont dit, ceux qui viennent ont plus de capitaux que nous, est-ce qu'ils ne vont pas nous recoloniser à travers cet outil-là? Vous l'avez entendu comme moi.
Hein, Madame Diallo-Sy, vous aimez beaucoup parler de colonisation, de recolonisation.
Il n'y a pas que moi qui en parle, vous savez bien.
Oui, d'accord, mais il faudrait qu'on aille à l'avant. Je le disais tout à l'heure, nous avons grandi, je peux le dire. Et aujourd'hui, en Afrique, tout est possible. Pourquoi nous sommes là? Il y a 31 pays africains, je pense, francophones qui sont là. 31 patronats. Et nous avons eu des discussions entre nous et nous partageons certaines contraintes, certains problèmes. Nous pouvons ensemble les résoudre. Ce que le MEDEF pourrait faire en ce moment, c'est de voir dans quelle mesure on va booster la coopération ou les joint ventures entre les PME françaises et les PME africaines. Parce que pourquoi aujourd'hui ce sont les Chinois qui viennent impacter davantage nos entreprises?
Vous me reprochez de parler de colonisation. C'est une nouvelle colonisation. Je viens de l'Est du Congo.
Nous voulons l'éviter.
Je viens de l'Est du Congo. Celui qui vient a des capitaux que nous n'avons pas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on soit en train d'installer quelqu'un?
Alain, c'est Albert justement Yuma, c'est sur quoi je veux rebondir. Il faut changer le paradigme. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans le développement économique? C'est le capital, c'est les fonds ou bien la ressource naturelle. On ne fabrique pas des batteries, de téléphones ou de véhicules avec de l'argent, mais avec du cobalt de la RDC.
Aujourd'hui, oui, mais vous n'êtes plus propriétaire de ce cobalt-là en RDC.
Non, allons-y doucement. Je crois que le maître et le paradigme doivent changer. Je l'ai dit et j'exagère peut-être. La transition énergétique, le trousseau de clés se trouve en RDC. Avec le cobalt, la forêt équatoriale et le fleuve Congo. Donc désormais, celui qui va être en position pour dicter les conditions ne devra plus être celui qui amène l'argent, mais celui qui a la ressource sur laquelle il peut s'asseoir. Nous sommes à une croisée de chemin. Il y a 30 ans, les pays arabes, avec un seul produit, ont pu imposer ce qu'ils ont imposé. Nous, en Afrique et au-delà de la RDC, nous avons beaucoup plus pour imposer, et les jeunes n'accepteront plus que c'est l'argent qui dicte leur avenir. Exactement. C'est ça la différence.
Exactement.
C'est ça la différence. Je vois Lionel qui veut intervenir.
Oui, je crois que tout à l'heure, Albert a dit quelque chose d'assez incroyable. C'est bien quand même de venir au MEDEF pour essayer d'aider les entreprises françaises. On pourrait dire les entreprises suisses, belges, canadiennes, vietnamiennes. Non, mais c'est très très important de voir qu'il y a un renversement qui est en train de se faire. D'abord, rappelez-vous qu'en termes d'industrialisation, les pays riches de la francophonie sont de moins en moins industriels. Très très vite maintenant, vous allez avoir une croisée des courbes, c'est-à-dire vous aurez plus de contributions de l'industrie dans nos pays africains francophones et pas francophones, contribution au PIB, à la création des richesses. Mm-hmm. Vous serez plus manufacturier au Sénégal que vous ne l'êtes en France. Faire attention, parce que les gens continuent à nous donner des leçons sur le thème, enfin voyons, un peu de bon sens, industrialisez-vous, quoi. Vous avez des ressources naturelles, essayez d'ajouter un peu de valeur, essayez de créer quelques emplois. Ça, c'est de la naïveté.
Ah bon? Okay.
Ah mais c'est de la naïveté. Et parfois c'est relayé par les Africains qui disent « Oui, c'est un scandale, on exporte des produits bruts, ça. » Ok, on exporte des produits bruts. Bon, moins que les États-Unis ou l'Australie, mais enfin, on exporte beaucoup de produits bruts. Mais je vous dis qu'on est à 2, 3, 5 ans, selon les pays, de croiser les courbes de contribution de l'industrie manufacturière au PIB par rapport aux pays riches de la francophonie. Donc la France, comme la Belgique et autres, se désindustrialise, nous nous industrialisons. Et par ailleurs, comme le dit le président de GKB...
Il y a un affrontement sur ce courant qui dit on devrait peut-être un peu plus s'industrialiser parce
non,
qu'on emporte tout.
Ce n'est pas une contradiction, c'est un cliché. C'est-à-dire, croire qu'aujourd'hui, nous ne transformons pas nos produits, c'est ignorer tout ce qu'on peut voir dans nos pays, dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans les câbles. Regardez la Tunisie, regardez le Maroc, regardez l'Afrique du Sud. Mais maintenant, regardez le Sénégal, la Guinée et le Bénin. On transforme de plus en plus. Il ne faut pas intérioriser les clichés méprisants sur l'Afrique que les gens qui n'aiment pas l'Afrique essayent de mettre en place. Et la Chine est en train d'exporter vers nous des capitaux et parfois des compétences. Regardez la zone économique de Libreville, regardez Djibouti, regardez l'Éthiopie, etc. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas simplement de piller nos mines, il s'agit de créer de la richesse et de la transformation.
Pas dans le Congo d'Albert Yuma, hein, parce que là-bas, ils pillent.
Oui, il faut dire les choses comme elles sont. J'ai pris d'autres exemples et je voudrais juste vous dire, Alain, quand même, il faut que la France se rende compte qu'elle est l'une des plus adverses aux risques. Pas seulement pour la relation avec l'Afrique, mais pour elle-même. Bon. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a d'autres puissances dans le monde, et notamment parmi les émergents, et notamment les Chinois, et notamment les Turcs, et notamment les Brésiliens, très actifs, qui ne se posent pas la question de la lusophonie, en se demandant, est-ce que j'ai bien intérêt à aller en Angola? Ils vont en Angola parce qu'ils se comprennent. Et ils vont au Mozambique parce qu'ils se comprennent. Et ils vont moins dans les pays d'à côté parce qu'ils ne se comprennent pas. Il n'y a que des francophones pour se demander, est-ce que la langue serait quelque chose? Mais nous avons une aversion au risque. Il ne faudrait pas qu'on soit contaminé par l'aversion française au risque qui pose des tas de problèmes aux PME françaises qui sont présentes ici au MEDEF. Et il ne faudrait pas qu'on nous transmette ce virus-là parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres pays qui sont prêts à investir dans leurs PME. Et c'est ça tout l'enjeu de notre industrialisation. Et la France a été absente pendant quelques années. Vous disiez, Madame Si, qu'on se demandait s'ils n'étaient pas partis un peu en vacances. Bon. Parce qu'ils n'ont pas pris les risques. Et ça a été dit par...
Ils ont perdu, des parts de marché.
Patrick Achille l'a dit très clairement.
Oui, il l'a dit de 12 à 7%.
Ça, c'est un challenge commun. C'est-à-dire, oui, vous n'avez jamais régressé dans le commerce avec l'Afrique. Simplement, comme l'Afrique quadruplait ses importations, vous n'avez pas suivi, parce que vous n'avez pas pris la mesure et le risque d'un continent qui s'industrialise.
Qui s'industrialise. Mais est-ce que... Il y a un vrai lien, parce que je pense que le développement passera par là, un vrai lien entre ces États-là, entre ces patronats-là, entre ce secteur privé sur le continent, Moumar Guerre.
Bien, écoutez, on essaie de le créer, en tout cas. Et pour répondre à la question de Mme Diallo tout à l'heure, qu'est-ce qu'on essaie de faire au MEDEF international? Exactement ce qu'elle a dit. On voulait réunir quelques centaines de PME africaines et mettre en face quelques centaines de PME françaises. En disant ensemble,
qu'est-ce qu'on peut faire ensemble?
Vous êtes une entreprise, une PME française, vous avez une entreprise en Guinée, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble pour ensemble attaquer les marchés, non seulement guinéens, mais le marché sénégalais, le marché malien, les marchés de la région? C'est ça que nous cherchons à faire au MEDEF international. Et donc, ce n'est pas dans un sens faire la courte échelle aux entreprises françaises, c'est de dire aux entreprises françaises, comment vous pouvez bâtir avec des entreprises africaines en se disant que ce qu'il y a au bout de ça, c'est la capacité, comme en Europe, quand vous êtes une entreprise d'un des pays, d'ancien pays de l'Est, des pays d'Europe centrale, en se disant, cette société-là que je vais créer quelque part en Serbie, en Slovaquie, va pouvoir rayonner sur 4 ou 5 pays de la région parce qu'on aura cette zone de libre-échange économique. Donc c'est ça que nous cherchons à faire. Et sur la Chine, il y a des centaines de milliers de jeunes Africains qui sont aujourd'hui en Chine pour apprendre le chinois. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'étais étonné, je demandais des nouvelles d'un de mes neveux à Dakar. Je dis, mais pourquoi il ne vient donc pas faire ses études en France? Un garçon extrêmement brillant. Mais j'ai appris qu'il attendait et qu'il allait sûrement avoir une bourse pour aller faire des études post-master en Chine et qu'il allait l'avoir. Et ça, ça fait partie du soft power. Mais quand vous dites soft power, derrière, il y a power. Et le power, il est en général économique.
Oui, mais est-ce que c'est la pas langue, une bonne chose, finalement? Parce que quand on entend ça, jusqu'à maintenant, les parents sont en train d'encourager le fait que l'on se diversifie, que l'on aille apprendre en Chine, que l'on aille apprendre aux États-Unis d'Amérique, et qu'on n'ait pas un focus seulement sur la France. Est-ce que c'est pas une bonne chose? Est-ce que ça ne permet pas aussi de combler ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les contrats soient en common law? Là, on a enfin des spécialistes dans ces différentes...
Quand vous êtes sénégalais, ce n'est pas parce que vous parlez le chinois que vous ne parlez pas le français.
Justement. Donc, ça élargit.
Le français, vous l'avez appris depuis l'école primaire. Donc, on peut s'enrichir. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas oublier tout ce qu'il y a derrière cette langue qu'on a apprise pendant des années, souvent à coup de trick.
Alors, Madame Si, excusez-moi d'insister. Est-ce qu'au sortir de cette rencontre, il y a un projet commun, élaboré, qui fait que demain, on va se dire, voilà l'étape suivante, voilà ce que nous allons réaliser ensemble, nous, les entreprises de la francophonie?
Je pense qu'après le discours de Monsieur le Premier ministre qui a marqué les esprits,
très grand discours,
et je pense qu'il va continuer à marquer les esprits, nous devrions, à partir de ça, tisser les relations saines qu'il faut entre le MEDEF et les entreprises françaises. En tout cas, moi, je suis venue ici, c'est dans ce cadre, ce que M. Nguer a expliqué tout à l'heure, parce que l'Afrique est la nouvelle destination.
Forcément. Ça, on a compris. Mais on a le sentiment, quand on regarde ici, qu'il n'y a pas de rencontre entre les chefs en marge de ça, qu'il n'y a pas de rencontre entre les patrons pour se dire, bon, ok, on est ici à Paris, on en profite pour passer tel ou tel type
mais
de...
Mais si,
d'accord.
On est en train de discuter, M. Alain, vous n'êtes pas toujours parmi nous. Moi, j'ai discuté
avec des
Djiboutiens.
Bon, j'ai dû louper certaines choses, alors.
Avec des Djiboutiens qui parlent français et qui sont venus vers nous dire, mais vous oubliez le petit pays qui est là, mais voilà ce que nous pouvons faire. Et nous sommes très avancés dans nos discussions. Donc, ces rencontres servent à ça. Ça ouvre les yeux.
Créer les relations.
Ça crée les relations. C'est d'abord, ça commence par ça. Et comme vous parlez la même langue, vous avez donc plus ou moins la même culture linguistique, ça facilite les choses.
Absolument.
Je pense que si le MEDEF aussi doit être soutenu par le gouvernement français, pourquoi je dis ça? Permettez-moi là. Si les Chinois arrivent à faire autant de business en Afrique, c'est parce que le gouvernement chinois est derrière les entreprises.
Les pauvres Chinois, on n'arrête pas de taper sur eux.
Non, mais ils sont soutenus par le gouvernement, les gouvernements chinois, qui les soutiennent. Donc, si le MEDEF a des ambitions et veut revenir en Afrique, il faut que les entreprises françaises aient assez de reins solides aujourd'hui pour pouvoir venir créer les joint ventures nécessaires pour la consolidation du secteur privé africain qui cherche à se globaliser, comme vous dites, et à travailler avec les services.
Albert Yuma.
Oui, je suis d'accord avec Madame Si, mais je crois qu'il est important. Et moi, je suis heureux que le MEDEF, aujourd'hui, s'ouvre à cette francophonie économique, parce qu'au départ, c'était plutôt les chambres de commerce. Et je m'excuse, il y avait une petite réticence du MEDEF à accompagner cette francophonie économique qui venait, à travers le président Diouf, par les chambres de commerce. Maintenant, aujourd'hui, on est tous grandes entreprises et petites. Mais ici, on a besoin de solidifier les PME. Ce qui était important, à mon avis, c'est qu'on passe un message que nous sommes venus ici, pays francophone, pour faire des affaires ensemble. Pas pour que la France vienne nous imposer, par sa condescendance, son esprit de supériorité, nous imposer du business. L'avenir est un avenir partagé. Ce n'est plus un avenir imposé. Et dans cet avenir partagé, mettons en avant les jeunes, les PME. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes n'ont plus la patience d'attendre. Ils ont des idées claires. Et s'ils vont en Chine, en Australie ou n'importe où, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. On ne doit pas être en francophonie en compétition avec les anglophones ou les chinois. On voit tout simplement qu'on se respecte mutuellement et qu'on fasse des affaires. L'expression est banale aujourd'hui, win-win, gagnant-gagnant. On est là pour avancer ensemble avec un avantage comparatif énorme qu'on peut discuter en parlant la même langue, mais j'espère en se respectant.
Alors, lorsque l'on regarde ici, il y a eu le président malgache qui est là, André Adjoel. Il y a également le premier ministre Patrick Hachi. Mais on a le sentiment que les dirigeants africains n'étaient pas là. Est-ce que le climat des affaires peut être bon si les dirigeants ne sont pas inscrits dans la même démarche, Lionel Zinsou? Vous avez été premier ministre. Ici, on se parle, tout le monde a envie de faire des affaires, de gagner de l'argent, de voir les choses prospérer. Mais est-ce qu'on a un climat qui permet cela?
D'abord, il y avait beaucoup de ministres. On n'avait pas besoin d'avoir beaucoup de chefs d'État et de premiers ministres. On en avait de très bons.
Des très bons, c'est vrai.
Il y avait beaucoup de ministres. Mais ce qui est intéressant, c'est pas les gens qui gèrent, comme j'ai pu le faire pendant quelques mois au Bénin, 18% du PIB de recettes, un petit peu de déficit, un petit peu d'aide publique, 22% de redéploiement. C'est les gens qui font les 78% autres.
Oui, mais ils ont besoin d'un climat, non, ils ont besoin d'un environnement.
Non, il faut arrêter avec le fétichisme du pouvoir d'État. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça se passe entre chefs d'entreprise, les gens qui font 80% du PIB. Donc là-dedans, si vous voulez, 25% c'est de l'agriculture, après c'est du commerce, c'est de l'artisanat, c'est beaucoup de plus en plus de l'industrie et c'est des services. Et effectivement, c'est les projets qui comptent. Il n'y a pas que les projets d'État. Évidemment qu'il faut que les États régulent et qu'il faut qu'ils incitent un certain nombre de
Absolument.
Projets. Mais ça va être des projets très largement décentralisés. Madame Si s'occupe de tourisme, de réceptif, c'est très important. Moi, je me suis occupé beaucoup d'agroalimentaire dans ma vie. Il y a des projets qui sont en matière agroalimentaire, pas simplement la question de savoir si le Sénégal va faire assez de riz ou le Nigeria va faire assez de riz, mais on a des problèmes alimentaires régionaux qu'on va résoudre régionalement. On contribue à nourrir le Niger, si vous voulez, dans les périodes de disette ou d'inondation. Ça se passe au nord du Togo, au nord du Bénin.
Oui, mais moi, je suis obligé de vous interrompre un peu sur la question, parce
ne
que
pas
je viens du sud Kivu et du nord Kivu, et quand je regarde, je me dis, si on n'a pas créé un cadre bien pour les affaires, un cadre qui rassure les investisseurs, dans cette région-là, les privés pourront se retrouver autant qu'ils veulent. Rien ne va marcher, M. Yuma.
C'est certain. En revenant de ce qu'on a vu au sud de Nord Kivu, où il y avait une difficulté à avoir l'autorité de l'État. Mais nous avons eu quand même, après avoir vu ce qu'on a vu, on est allé voir, vous vous souvenez très bien, le gouverneur du sud Kivu. On lui a expliqué les difficultés qu'on avait connues. Et vous en êtes témoin. Il a compris l'urgence des besoins du secteur privé pour contrôler cet artisanat.
Donc, ils sont importants. C'est pour ça que je parle
non,
de ça.
Ils sont importants.
Il faut
mais
un cadre.
Il faut un cadre. Mais laissez-moi vous dire que ce matin, à la suite de son discours, j'ai eu une réunion avec le Premier ministre ivoirien. Il m'a dit une chose exceptionnelle. Il dit, Président Yuma, je suis prêt à venir en RDC pour que ce soit vous, les hommes d'affaires, qui preniez la parole. J'ai dernièrement fait un séminaire de mon gouvernement, à Abidjan. J'avais mes ministres à gauche et le patronat à droite.
Tout à fait.
J'ai dit aux ministres, voici vos patrons. Comme a dit Lionel, occupons-nous de 80% du PIB.
Est-ce que vous avez le sentiment que, enfin, le privé va pouvoir occuper sa place dans l'environnement économique africain ? Avez-vous le sentiment qu'il est moins vu comme celui que l'on doit...
Le secteur privé est une idée neuve en Afrique. Avant de faire des privatisations, il n'y a pas de secteur privé. L'objectif des colonisations, qu'elles soient belges, britanniques ou françaises, ce n'était pas de créer des capitalistes sénégalais et certainement pas en RDC, si vous voulez, ou en Guinée ou au Bénin. Évidemment que c'est une force neuve. Et curieusement que la pandémie, le traitement de la pandémie, la résilience à la pandémie a rendu un petit peu plus légitime. Et puis maintenant, les gens s'aperçoivent que c'est 80% du PIB et que le fétichisme du pouvoir politique, c'est pas la solution. La solution, c'est d'aider. Enfin, c'est exactement ce que dit Albert. C'est les patrons, en fait, prennent un rôle de développement économique qui sont de créer un modèle. Et nos modèles en Afrique sont africains.
C'est ça des modèles bien africains qui ne soient pas du copier-coller.
Non seulement des modèles, mais des champions africains.
Des champions africains.
C'est-à-dire, Alain, si tu permets, on va faire la francophonie, non pas pour que les grands groupes, les PME françaises, viennent continuer à progresser, mais pour qu'on crée des vrais industriels, de vrais patrons africains qui, en collaboration avec leur État, prendront le contrôle de leur économie pour que ça soit enfin réellement gagnant-gagnant.
Ben on va terminer là-dessus, africains. Sur cet espoir-là, créer des champions africains. Merci en tout cas, monsieur, madame, monsieur, d'avoir accepté de venir participer à ce débat africain. Merci et bon courage à vous. On espère qu'on se reverra bientôt et que les choses auront évolué. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. La technique était assurée aujourd'hui ici à l'hippodrome de Longchamp par Bertrand Éclair, Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault. Nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite. Religion du